originale. On a eu des festivaliers visiblement heureux et passionnés. Nos libraires ont l'air optimistes. Et on sait que c'est comme les agriculteurs, quand un libraire est optimiste, c'est vraiment que les choses se passent bien. Je leur fais tous les ans la petite taquinerie, donc ne vous inquiétez pas. Et par ailleurs, on a eu vraiment des équipes spinaliennes extraordinairement mobilisées pour faire de ce festival de plus en plus connu, nationalement et internationalement, et de plus en plus réputé, cette réussite conviviale que vous aimez et qui vous amène à revenir régulièrement. Avant de prendre tout à l'heure le verre de l'amitié, même si certains ont anticipé ce moment convivial, mais on pardonne tout aux traducteurs et aux traductrices de talent, je voulais donc dire que cette édition, qui était sous le signe des destinations, a permis donc d'aborder évidemment le voyage, que ce soit, comme je le disais, le voyage initiatique de la fantaisie, de la littérature jeunesse, le voyage intérieur du fantastique, ou le voyage spatial, ou futuriste, ou dans le temps de la science-fiction. On a aussi abordé la question du destin, que ce soit le destin des empires, le destin des nations, le destin des individus, et aussi on a parlé des nations. Entre autres, je pense à Sophia Samantha, dont le livre aborde l'ensemble de cette thème. Et puis, évidemment, quand on réfléchit à ce qu'aurait pu être le destin du Royaume-Uni, c'est sûr que quand on lit la trilogie de Farzing de John Walton, on se dit que ce serait-il donc passé pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Europe et le monde, si les Britanniques avaient éliminé Churchill et dessiné, comme certains souhaitaient, une paix séparée avec Adolf Hitler. Voilà. C'est l'ensemble de ces questions qu'on a abordées. On a essayé aussi de les retranscrire au travers de l'anthologie Destination, que j'ai eu le plaisir de coordonner. Vous trouverez, si ce n'est déjà fait, 14 auteurs francophones, beaucoup de Français, mais aussi Belges et Suisses. Et contrairement aux années précédentes, l'anthologie dorénavant, c'est l'anthologie du festival, du thème du festival, et c'est aussi une anthologie qui dépasse le genre initial de la fantaisie, mais qui aborde l'ensemble des genres imaginaires. Donc, si ça correspond au thème, eh bien, les auteurs ont la liberté d'écrire du fantastique, de la fantaisie et de la science-fiction. La fantaisie restera sans nul doute, parce que c'est la marque du festival dominante, mais c'est l'ensemble de l'imaginaire qui se retrouve aujourd'hui au sommaire de Destination. Et de demain, alors, le thème du festival, on ne l'a pas encore officiellement tranché. En tout cas, on aura à nouveau, évidemment, le 24 au 27 mai, un festival à Épinal. Ça sera le 17e, et ça fera 16 ans. Et je pense qu'on se retrouvera avec le même plaisir. Voilà, après cette petite introduction, la question pourquoi écrivez-vous, on va d'abord la poser à notre ami Jean-François Thomas, novelliste, anthologiste, acteur de la science-fiction suisse, qui a y compris, si vous l'avez vu dans le débat, vous le savez maintenant, était pendant des années responsable du, pas du comité de surveillance, c'est pas le mot exact, mais du conseil de la fondation, du conseil fondateur de la maison d'ailleurs, qui est le grand et à la fois le seul musée de la science-fiction et des voyages extraordinaires en Europe, et qui est donc d'ailleurs pour les bas près de Lausanne. Si un jour vous avez l'occasion, vérifiez les horaires. Mais franchement, c'est un magnifique établissement. Donc, Jean-François Thomas, vous êtes l'un des représentants du pays invité de cette année, c'est-à-dire la Suisse. Vous avez, je crois, si ce n'est déjà fait depuis quelques semaines, en retraite de votre métier officiel, vous étiez dans la formation, on va dire, pour simplifier les choses, mais vous avez toujours été un acteur de la science-fiction suisse, romande. Vous êtes un auteur, vous êtes d'ailleurs au sommaire de l'anthologie, avec un texte extrêmement amusant et caustique que nos lecteurs découvriront, je crois, une planète assez étonnante, avec un ambassadeur assez odieux et une surprise finale qu'on ne dévoilera évidemment pas. Pourquoi vous écrivez alors que vous aviez un métier, des niveaux de vie, vous avez même bossé dans des banquiers, enfin, franchement, pourquoi vous, en Suisse, écrivez-vous, Jean-François Thomas?
Eh bien, c'est une question intéressante. En fait, tout d'abord, je crois que j'ai écrit plutôt des critiques et c'est plutôt le côté chercheur qui m'intéressait. J'ai fait des études de lettres et puis j'ai consacré mon mémoire à la science-fiction suisse romande. Et ceci grâce en fait, à Pierre Versin, qui est le créateur, le fondateur de la maison d'ailleurs, qui est aussi l'auteur des monumentales encyclopédies qui s'appelle l'Encyclopédie de l'Utopie des voyages extraordinaires et de la science-fiction, qu'il a publié en 1982 et qui fait encore référence dans le domaine, notamment pour le domaine francophone. C'est vraiment en quelque sorte le Pierre Larousse de la science-fiction. Et j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Versin. j'ai lu des textes. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de montrer que la science-fiction suisse existe, parce que les gens n'en ont aucune idée, en fait. Donc, j'ai pu publier un livre qui s'appelle « La fricheur d'imaginaire » en 2009, et qui est une anthologie historique qui recense des textes depuis 1884 jusqu'en 2004, à l'époque, puisque l'anthologie a paru en 2009. Et puis, c'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai aussi été critique littéraire au sein de 24 heures, qui est un quotidien lausannois, c'est le plus grand quotidien de Suisse au monde. Enfin, maintenant, je ne sais pas si c'est le taux qu'il est peut-être, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, à l'époque, c'était le plus grand. Et puis, j'ai fait des critiques dans Galaxy, et puis j'ai écrit quelques nouvelles, enfin, tout ça s'enchaîne un peu, de manière de dire. J'ai pas mal publié de nouvelles dans des anthologies, essentiellement. Je prends beaucoup de plaisir à écrire. Finalement, c'est une suite logique, quelque part, d'un destin personnel.
Merci Jean-François. Dernier mot, mes gens, vous êtes un habitué des Imaginales. Je crois que vous êtes venu à la première édition, si ma mémoire est bonne, en 2002. Et je ne me souviens pas, est-ce que vous avez raté une édition?
Une,
il me semble bien. Voilà. Avec pas mal d'excuses.
Absolument.
Vous ne ratez, sauf une fois, jamais le Festival Imaginal. Ce qui veut dire aussi que vous aviez bénéficié d'un statut extrêmement rare aujourd'hui. Au moment où, sur Cosmodiste, tout le monde quasiment veut venir aux Imaginales, ce qui quand même nous fait très plaisir. Et où malheureusement, malgré tous les efforts et le développement de notre budget, on ne peut pas inviter tous les auteurs de talent du pays chaque année. Vous aviez fait partie de la toute petite poignée, avec quelques autres comme Jean-Claude Pugnat, qui sont les invités permanents, parce qu'on considère qu'il a vraiment une voix originale dans le milieu de l'imaginaire, qu'il écrit des choses tout à fait talentueuses, et qu'aussi, il a fait partie de ceux qui sont venus à une époque où on ramait pour convaincre de venir. On n'avait pas de TGV à l'époque, à une époque aussi où les auteurs, en quelque sorte, se pressaient moins, et quand ils venaient, c'était surtout par amitié et sans conviction de trouver un jour un festival qui pourrait leur rendre, sinon, tout ce qu'ils ont apporté, du moins une partie de ce qu'ils ont apporté, en amenant un public nombreux. Et passionné. Ce petit préambule posé, Xavier Mauméjean, pourtant vous avez vous aussi un métier qui rapporte énormément, il est enseignant. Vous êtes enseignant de philosophie, de ma mémoire est bonne, et vous avez donc un travail, vous pouvez faire quelques heures supplémentaires, et maintenant vous écrivez. Vous écrivez, ça fait longtemps que vous écrivez des nouvelles, vous écrivez des romans, et d'année en année vous persévérez. L'intérêt d'un public non négligeable. Pourquoi écrivez-vous donc Xavier Mauméjean?
Alors, avant d'en parler, j'en ai pas fini avec ce préambule. Je voudrais dire deux choses. La première qui est apparue lors de cette édition, et pourquoi ça ne pouvait pas se faire avant, c'est
série d'ouvrages et d'arriver à développer aussi des romans jeunesse. Vous, pourquoi vous écrivez? Je vous avais dit que quand même c'était la fin du festival. Heureusement que j'ai trouvé un rôle de l'air d'être. En plus, Gilles Arthur est un auteur qui est dans mon anthologie, dont j'ai à peine, parce qu'il a beaucoup de talent, légèrement corrigé le texte. Tout va bien. Gilles Arthur,
vous voyez. Donc, pourquoi j'écris? Alors, comme je suis de formation biologiste, j'ai toujours des difficultés à expliquer le pourquoi. Un biologiste doit expliquer le comment, le processus. Mais est-ce qu'il y a un dessin caché? Est-ce qu'un dessin objectivable de pourquoi je deviens écrivain? Parce que je pense que je, malgré le titre de je ne suis pas écrivain, contrairement à mes deux voisins, je le deviens peut-être. Donc, Stéphanie m'a piégé parce qu'elle m'a obligé à répondre à une question que j'évite depuis 18 ou 24 mois. Pourquoi diable suis-je ici et pourquoi diable y a-t-il un livre en deux tomes? Donc, si je vous prends un faux fuyant et que je vous explique la trajectoire plutôt, et si j'essaie de la cérébraliser, je dirais que c'est par strates. Il y a des sédiments qui se sont déposés et d'abord, à la base, il y a le fait d'être traversé par des questions. Traversé par des observations et qui se déposent, qui s'accumulent comme dans une rivière, des éléments voilà, qui vont commencer à faire monter ou à se positionner. Et ces questionnements, je dirais qu'ils naissent, comme le disait Mario Alvariosa, parce que on est dans une forme d'insatisfaction, on est dans une volonté peut-être illusoire de modifier le réel pour le ramener vers quelque chose qui nous semblerait mieux nous correspondre. Mais s'il y a un dessin caché, ce serait peut-être plutôt celui-là. Et après avoir accumulé ces matériaux qui sont des éléments, enfin, qui chez moi en tout cas, se constituent par des bruits de fond et un flot d'images, de paysages, de manteaux ou émotionnels qui se sont accumulés et qui sont là en toile de fond de quelque chose en gestation et que je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont très présents, finalement trop présents. Mais ça ne fait pas encore le passage à l'acte, ça ne fait pas encore le fait qu'on va poser une plume ou travailler sur un clavier parce que j'écris comme un cochon pour faire un texte. Et si je suis arrivé vers 55 ans, c'est peut-être parce que, au fil de ma carrière, moi j'ai travaillé pour les collectivités, j'ai travaillé pour les élus, j'ai manipulé le mot. Dans le dossier de 200 pages, d'une étude de 200 pages, je fais une synthèse en 40 pages, je fais un mémoire, une note en 4 pages, et ensuite je fais un court mémo pour l'élu. En une demi-page, en trois quarts de page. Donc, c'est un travail que je ne savais pas que j'étais en train de faire, qui est de dire chaque nom devient signifiant. Et on travaille sur la concision et la précision de ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer à l'élu pour qu'il le maîtrise, pour qu'ensuite il puisse lui poser ses choix d'orientation politique de notre vie, de la cité. Et le technicien n'est que ça. Donc, à un moment donné, je crois que ces trois éléments, l'accumulation d'interrogations, l'accumulation des paysages sensoriels et photographiques dans la tête, et cette idée que, oui, bon sang, je crois que je sais écrire des choses insignifiantes, font que je me suis inscrit dans un processus de libération. Le fait de les poser sur le papier m'a permis de ne plus être envahi par ces choses que j'avais accumulées. En réalité, et Stéphanie, c'est pas faute si je dois finir par avoir un psychanalyste en sortant d'ici, c'est que je me suis rappelé qu'à l'âge de 8 ans, mon père m'a dit « Si tu as du mal à t'endormir, fais défiler des images dans ta tête. » Et je crois que ça n'a pas vraiment arrêté depuis ce temps-là. Donc, du coup, ce trop-plein se transforme en un matériau. Un matériau, on a des choses
choses à faire voir. Et moi, je me suis inscrit dans la possibilité de libération de cette chose-là. Donc, j'ai fait un texte pour moi. Et ensuite, un texte pour mon fils cadet qui on lisait la même fantaisie. On lisait Glenn Cook, pour ne pas le cacher. On était fans de Glenn Cook tous les deux. Et lui, il est bien plus calé que moi en littérature fantastique. Et à un moment donné, là, honnêtement, je ne sais plus beaucoup comment répondre. C'est peut-être vous qui pouvez être plus mes mentors, ceux qui mes mentors, excusez-moi, là-dessus, derrière le verre aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de le faire partager. Ça y est, le processus de libération s'est effectué. Ça semble tenir la route. C'est une histoire qui, en plus, s'est construite elle-même. On a pris les matériaux, les matériaux se sont imposés le développement des matériaux s'est imposé de lui-même, et ensuite on est peut-être je parle toujours pour moi, extrêmement pour moi, dans un sentiment que j'ai qualifié d'orgueil et de vanité. Qu'est-ce que ça vaut? Et c'est pour moi le moment où j'ai osé envoyer le manuscrit quelque part, et je pense que si je deviens écrivain un jour, c'est parce que, par contre, il y a eu un éditeur qui m'a dit « Maintenant, on va passer du texte au livre. » Et là, je me suis engagé dans une toute autre galère, qui est quelque chose qui m'entraîne vers une autre forme d'exigence et un autre processus mental que je ne sais pas encore très très bien définir, ou si je vais m'arrêter là sur cet élément.
J'ai vu trois réponses à la même question, évidemment trois réponses différentes. D'abord parce que tous les écrivains sont des menteurs, en effet, le lapsus était intéressant. Et tous les écrivains sont des raconteurs d'histoire, ce qui revient quand même finalement. Mais ce que j'aimerais savoir aussi, c'est ce que Joe Walton, avec son regard de Britannique, de Galloise, et aujourd'hui, au moins d'adoption de Canadienne, de Québécoise, elle vit actuellement à Montréal. Comment votre imaginaire s'est imprégné de l'histoire du Royaume-Uni, en tout cas pour la trilogie de Farthing? Pourquoi vous avez utilisé ce matériau de la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qui vous a poussé, même si ce n'est pas votre premier roman, c'est quand même une trilogie marquante, à écrire cette histoire alternative? Le Royaume-Uni et le Reich auraient signé une paix séparée, ce qui aurait évidemment construit un régime britannique assez peu démocratique. Pourquoi écrivez-vous des histoires pareilles, John Walton?
I think I've answered this question already in a different way on a different panel when we were talking about using history. But I was drawn to this particular alternate history because I felt that we are very complacent about the way that we view the Second World War, and that we, in the Anglophone world, have this very smug sense that we won it, when in fact our grandparents and great-grandparents won it, but we didn't do anything. And the idea that it almost won itself, that it was almost inevitable because it was a fight of good against evil and good won, which ignores the point that evil won in all of the European countries where it won, and Hitler conquered France and Greece and so on. And it's not the moral value of the people. It was geography and the British Channel that prevented him from invading Britain. And I didn't want to write a Hitler Wins and Conquers Britain novel because that's been done a lot. But the idea that the politics of the 30s would continue, that it would be business as usual and appeasement that happened in the 30s, that seemed very plausible in many ways. That seemed more plausible than what actually did happen. So I was writing about that period to write about the present day, to write about the time when I was writing it, to to say that fascism is a real danger, and the real danger is not an external threat, but it is us. Good people do bad things. We do bad things. We elect governments that do bad things in our names. We are not immune. And that's what drew me to that particular story, though that's not necessarily why I write.
Alors, il me semble que j'ai déjà répondu à cette question d'une autre façon sur un autre débat. Moi, ce qui m'a attiré, c'était cette histoire alternative, parce que les anglophones ont tendance à avoir un point de vue sur la Seconde Guerre mondiale, qu'en gros, ils ont gagné. Ils sont assez fiers de ça, mais techniquement, ce n'est pas eux qui ont gagné, ce sont leurs grands-parents. Nous, on n'a rien fait, notre génération. Beaucoup pensent que cette issue était inévitable puisque c'était un combat du bien contre le mal et que c'est le bien qui a gagné. Mais dans ces cas-là, on fait complètement abstraction de ce qui s'est passé, que le mal a gagné dans certains pays européens, quand une partie de la France a été conquise, ou la Grèce également. Et ce n'était pas une question de valeur morale différente d'un pays à l'autre, c'était une question de géographie. On a eu la chance d'être protégés également par la mer. Je ne voulais pas écrire un roman où Hitler envahissait la Grande-Bretagne parce que d'autres l'avaient déjà fait, mais je voulais plutôt envisager qu'on continue la politique des années 30, ce qui me paraissait d'ailleurs parfois un peu plus plausible que ce qui s'est réellement passé, une politique de paix. Je voulais, à travers ces romans, parler de ce qui se passait à l'époque où j'ai écrit cette trilogie. Je voulais rappeler aux gens que le fascisme était un réel danger qui ne nous était pas extérieur, mais qui était en nous. Parce que des gens bien, parfois, font le mal, et des gens bien élisent des gouvernements qui font le mal en leur nom. Et c'était cette histoire-là que je voulais raconter, mais ce n'est pas nécessairement pour ça que j'ai écrit.
Je vois que vous n'allez pas pouvoir en rester là. Il va quand même falloir répondre à la question, même si on a beaucoup apprécié comment vous avez expliqué la trilogie de Farzi, ou du moins ce qui a motivé ce choix de sujet. En revanche, il va bien falloir répondre au moins un peu, y compris éventuellement, comme beaucoup d'écrivains, on vous entend un peu. Pourquoi écrivez-vous?
Ok. I write because I love to write. It's very simple. It is a high like no other high. I get a great buzz out of writing. I love doing it. But if there were no commercial publishing, if I wasn't going to make any money out of writing, what I would write is a large number of poems and the first 10,000 words of an infinite number of novels. I would never complete a novel if I wasn't hoping to publish it and get paid for it. I would never push through that bit in the middle, which is no fun. I would only do the bits that are fun and just write the beginning and poetry. But really, I write what I write because I love it. I choose the different subjects that I choose because I love them. And I love the process of writing. I sit there writing and I just feel so happy doing it. I love to actually write first draft new words. I never revise either if there was no commercial publishing.
Alors, tout simplement, si j'écris, c'est parce que j'aime ça. Vraiment, ça m'élève. Je ne sais pas, je ressens quelque chose d'indescriptible quand j'écris. Mais s'il n'y avait pas l'aspect commercial derrière et le fait de gagner sa vie, je n'écrirais que des poèmes et le début des romans, les 10 000 premiers mots. Et je m'arrêterai là parce que le milieu, ça ne m'amuse pas du tout à écrire. Donc, j'aime que mes débuts. Donc, j'écrirais juste les débuts des romans pour m'amuser. Mais vraiment, écrire, j'aime ça. Je choisis les sujets qui m'intéressent. C'est tout le processus d'écrire qui vraiment me rend heureuse. Mais le premier jet, tout ça, j'adore. Après, effectivement, s'il ne fallait pas vendre derrière, le premier jet ne serait jamais corrigé.
Vous aviez oublié, à différence de Joe Elton, vous avez un métier parallèle. Vous auriez pu peut-être faire des choix qui vous poussent à être écrivain exclusivement. Vous articulez ce travail à la fois d'enseignant, ce travail d'écrivain, comment écrivez-vous avec deux métiers?
C'est important. Je pense que si j'avais arrêté l'enseignement, j'écrirais
talent d'écrivain. Superbe formule, cruelle formule. J'ai l'air quand on passe à sa vingtaine, brusquement d'un métier ou autre à l'écriture, qu'est-ce qui fait le déclic de se dire qu'on va quand même aller au-delà de petites choses qu'on fait pour soi, de construire une histoire jusqu'au bout et ensuite de la proposer à un éditeur? Est-ce que vous écrivez, pourquoi vous écrivez, est-ce que vous écrivez aussi pour un éditeur et pour un public?
Alors, pour répondre à cette double question, le déclic, ça a été le regard de mon fils, de dire, oui, ça vaut la peine. Je crois que c'est lui qui m'a permis de basculer vers la forme de folie que j'essaie d'endosser au jour d'aujourd'hui. Voilà, et ensuite, ce n'est que lorsque j'ai eu une réponse de Mnemos concernant cette bouée que j'avais, enfin cette bouteille à la mer que j'avais envoyée alors que j'étais sur l'île de Mayotte et que les distances sont lointaines et l'inscription dans le temps très déliée. Ce n'est que dans mon retour en métropole que j'ai eu une réponse positive et là la folie a commencé. Donc c'est à ce moment-là que je me suis posé, que j'ai transformé les textes en des textes que j'avais envie de partager. Et que tout ce travail de réécriture sur, en sachant que j'allais m'exposer, exhiber mes fantasmes et mes paysages qui m'habitaient. Donc c'est à ce moment-là que voilà, je suis rentré dans ce processus d'être écrivain, si tant est que je mérite le titre.
C'est les lecteurs toujours qui donnent finalement. Jean-François Thomas, pourquoi être écrivain? Comment être écrivain? Bon, d'abord des critiques littéraires, un travail autour de la maison d'ailleurs, un rôle d'animateur, des anthologies, des nouvelles. Pourquoi il n'a pas franchi le stade du roman? Ça ne vous fait pas envie ou vous n'aviez pas le temps?
Allez, je suis un peu piégé là. J'ai en fait écrit un roman jeunesse qui n'a pas encore été publié, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je vais lire à un auteur jeunesse, une auteure jeunesse pour être précis, qui l'a relu et qui m'a dit que c'était bien, m'a fait quelques suggestions. Et puis, je ne l'ai jamais envoyé à un éditeur. Parce que je ne connais pas trop les éditeurs jeunesse et j'ai peut-être peur que l'on le refuse, c'est pas mal.
Je pense que tu vas chercher un changement de
mais bon, alors, elle existe, mais il faudrait que je le mette à jour. Ça, j'ai écrit il y a quelques années, dans une période de chômage, pour tout dire. Dans ma vie professionnelle, j'ai connu une période de chômage. Donc, comme l'a dit Stéphanie, j'ai travaillé dans une banque, je suis formateur d'adultes, je donnais des cours aux employés de banque, aux cadres de l'entreprise. Et puis un jour, j'ai démissionné. Puis j'avais 52 ans à l'époque, c'est difficile de retrouver du travail à 52 ans. Après, j'ai retrouvé 10 mois après, j'ai travaillé encore 20% jusqu'à la fin, je vois, après je suis à la retraite, comme Stéphanie le disait. J'ai donné des cours de technique de recherche d'emploi aux chômeurs depuis 14 ans. Donc, après avoir travaillé au service de la finance, travaillé au service du social, c'est un bon équilibre.
Oui, on peut faire l'inverse, passer de côté.
Mais je voudrais juste rebondir sur ce que disait Gédé Arthur tout à l'heure. Ce qui m'a donné le critique, moi, c'est j'ai participé à une fois à un atelier d'écriture à Maison la Romaine, pour être précis, avec une Lausannoise qui animait des cours qui a une maison là-bas. Et puis, à la fin de la semaine, elle m'a dit un truc qui m'a donné confiance en moi. Elle m'a simplement dit, toi, tu peux y arriver.
Comme quoi, parfois, c'est aussi les autres qui vous donnent envie de passer au stade de l'écriture. Comme il y a un mystère quelque part, parce que si je prends mon propre cas qui n'intéresse personne, je le prends comme exemple. J'ai écrit deux histoires. J'ai écrit l'histoire de Cochon d'Inde pour abuser ma fille. Il faut dire que j'avais involontairement pris le sien. Donc je vais me faire pardonner. J'ai oublié que le soleil tournait en laissant dans la voiture. J'en ai encore des remords, cette pauvre petite bête, il y a 30 ans. Mais bon, depuis, c'est la bonne avec les animaux. Et par ailleurs, j'ai un jour écrit une histoire temporaire, une petite histoire de science-fiction, pas pour la publier, juste pour voir quels étaient, parce qu'il ne faut pas parler du mécanisme d'écriture et la part de référence. mais les personnages, bon, voilà. Et puis, je ne l'ai pas publié d'abord parce que je publiais les autres, je ne voyais pas. Et puis je dis, mais est-ce que je ressens le besoin? Non. Non, j'avais fait ça juste parce que ça m'était utile. Je m'étais lancé un petit défi. J'avais réussi à le mettre pas extraordinaire, pas scandaleux, ça marchait. Et je me suis dit, tiens, je vois un peu mieux les mécanismes. Parce que j'avais été étonné de comment en force d'écrire, ben, des choses venaient, et puis un personnage changé par rapport à ce que j'avais imaginé. J'ai pas vraiment très détaillé avec quelques idées. Et puis, je m'étais beaucoup amusé finalement. Il y a des moments où je me marrais. J'avais des gens que je connaissais, j'ai mis en scène, pas méchamment, mais avec un peu d'humour. Voilà, bref, peu importe. Et au final, je me suis rendu compte que j'en ai jamais fait d'autres parce que je ne voyais pas le besoin. Je ne ressentais pas ce besoin d'écrire. Je ressens le besoin de faire partager mes amours des livres, etc. Donc, ça renvoie à la question. Pourquoi écrivez-vous, d'avis-vous les gens?
Elle est très difficile, évidemment, cette question. C'est une nécessité, oui. Vous disiez que vous le ressentiez pas. Mon épouse écrit bien, ne le ressent pas. Elle n'a jamais voulu écrire ou publier quoi que ce soit. Oui, c'est une nécessité, mais évidemment, ça ne peut être que un témoignage personnel. Hein. Chacun a son histoire, on l'a bien vu. Pour ma part, je ne la ressentais pas, cette nécessité. Et le jour où j'ai fini une fiction, un roman, parce que là aussi je commençais par un roman, c'est devenu une nécessité. Par contre, j'envisage pas de retour en arrière, c'est-à-dire que j'envisage pas de cesser d'écrire. Ça, c'est une tautologie, mais il appelle ça une qui a du sens. J'envisage pas de cesser d'écrire tant que j'écris. Mais jamais j'irai publier, moi je vous en supplie, le jour où j'ai plus rien à dire, j'arrête, ça je sais. Parce que la nécessité, justement, sera plus là. C'est une nécessité, mais qui peut s'arrêter, dès lors qu'elle s'arrêtera, là, effectivement, on ne la ressentira plus. Mais il n'y a pas aussi ce besoin, d'où la distinction entre l'homme et l'auteur, d'avoir son nom. L'écriture est une nécessité à part entière. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis pas l'écrivain à la maison, je ne suis pas l'écrivain qui arrive. Je suis un homme et un auteur.
On arrive bientôt à la fin de ce dernier café littéraire, ce moment un petit peu, en fait, qui est juste totalement personnel, que je vous inflige, c'est juste pour éviter la déprime post-festival. Et donc, Walton va m'aider, puisque évidemment, parmi les bonheurs qu'on peut avoir à animer la direction artistique d'un tel festival, c'est justement d'inviter les écrivains qu'on découvre, d'inviter, de faire partager ses coups de cœur, et puis aussi, bien sûr, d'inviter les auteurs qu'on a admirés. Je donnerai l'exemple de Christopher Priest, dont j'ai lu le premier livre en 1980, et des dizaines d'années après, j'ai eu le bonheur de l'inviter et j'ai eu la chance qu'il aime ce festival et que dorénavant il soit prêt à venir aussi souvent pour l'invitera, ce qui ne veut pas dire tous les ans, mais quand même souvent, quand même très souvent. Joe Walton, c'est une découverte récente. J'ai lu sa trilogie de Farzing en 15 jours et en faisant d'autres choses, et j'ai lu peu importe ses deux autres romans. Vous faire partager l'univers d'un écrivain, c'est quelque part quand même, pour ne pas lui demander pourquoi il écrit. Mais pourquoi vous aimez lire? Et c'est la dernière question que je vais poser à Joe Walton. C'est Joe Walton, vous aimez écrire, vous avez répondu assez clairement, en tout cas pour vous, à la question pourquoi écrivez-vous? Mais est-ce que vous pourrez répondre à la question de pourquoi nous aimons lire?
Ok, first I want to say thank you for inviting me to Imaginal Antwerpenal. It's been absolutely wonderful. This is one of the best festivals, best conventions that I've ever been to. I've had a great time. I'd like to be like Christopher Priest and come every year, or as often as you want me, unless I'm doing something else that weekend, I would be here. And so I want to thank you for that. I also want to thank Helen, my translator. Merci, Helen.
Je voudrais vous remercier de m'avoir invité à ce festival et à Épinal. Franchement, j'ai passé un super moment. C'est un des meilleurs festivals.
reading and that it's all about reading and loving reading. And I think that we all have a very deep need in our lives for art, both to make art, whether it's writing or painting or cooking or whatever. We all want to make art at whatever level we can. And we also all need art and beauty that other people have made to come into our lives. And books can be that. And the literature of the fantastic, science fiction and fantasy, because they give us other worlds as well as characters and plots, because they give us other worlds in addition to those things, they can open our minds to widen our imaginations. And I think that we, the kind of people who come to this festival, are the people whose minds opened up in that way when we were teenagers or young people, and we still have minds that are open to that kind of imagination today. And I think that's why we love what we love. It fulfills our need for art, and it helps to open up the world and the possibilities of the world, and to understand the world and to grow.
Alors, quant à la question « Pourquoi est-ce que nous aimons lire ?», j'ai écrit un livre qui s'appelle « What makes this book so great ?», donc « Qu'est-ce qui rend ce livre si fantastique ?». Et je parle également beaucoup du plaisir de lire dans Morwenna. Je pense que nous avons tous en nous un profond besoin d'art, que ce soit faire de l'art, et alors là, ça peut être écrire, ça peut être peindre, ça peut être faire la cuisine, chacun à notre niveau, et on a tous besoin de l'art que les autres peuvent produire. Et je pense que c'est ça, quand on aime lire, c'est qu'on aime l'art en général. La littérature fantastique, c'est-à-dire de la fantasy et de la science-fiction, crée également d'autres mondes, en plus de nous apporter des personnages et des histoires, et ces mondes nous permettent de nous ouvrir un peu l'esprit, ouvrir notre imaginaire. Tous ceux qui sont ici présents à ce festival, je pense, ont eu comme ça ces expériences qui leur ont ouvert l'esprit à l'adolescence ou quand ils étaient plus jeunes, et ils sont toujours ouverts à d'autres mondes. Et c'est pour ça qu'on aime lire, ça nous permet de remplir ce vide en nous pour l'art, l'art dont on a besoin, et ça nous ouvre à d'autres mondes, ça nous permet de comprendre le monde et de grandir.
Comprendre le monde, grandir, c'est un peu finalement ce que nous essayons de faire tous en construisant un tel festival, ce que nous permettent de faire tous ces écrivains passionnés, passionnants. J'espère qu'on pourra encore ensemble très longtemps construire ces imaginaires.